France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Deuxième épisode de notre feuilleton sur les dinosaures. Aujourd'hui, comment comprendre la cognition dinosaurienne? Comment reconstituer les comportements et le monde sensible d'espèces éteintes depuis des millions d'années? L'éthologie, l'étude du comportement animal, est une jeune discipline toujours en construction, même pour les créatures qui vivent sous nos yeux. Et pourtant, on sait aujourd'hui qu'un T-Rex pouvait renifler une carcasse à 3 km, ou qu'un Triceratops était probablement sensible aux affrinsons, comme les éléphants modernes. Comment ? Grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, les crânes fossiles sont devenus de véritables boîtes noires pour les paléontologues. Autre atout précieux, les dinosaures ne sont pas tous éteints, il en reste un peu plus de 11 000 espèces de dinosaures sur Terre, les oiseaux, leur descendant direct. Cognition dans la tête des dinosaures. Gérard Le Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, professeur émérite spécialisé dans le comportement des oiseaux et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Dans la tête d'un oiseau » paru en 2024 chez Humaine Science. Nous sommes en ligne avec François Thérien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue au Musée royal de Tyrène en Alberta et spécialiste des dinosaures. Et nous sommes en ligne également avec Jean Leleuf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue et directeur du Musée des dinosaures d'Esperanza dans l'Aude. Et vous êtes également l'auteur du livre « Dans la peau d'un dinosaure » publié en 2024 au Point. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là également au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme Blue Sky. Ça se passe sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment déduire le niveau de développement du sens de l'odorat d'un vélociraptor, de l'acuité visuelle d'un diplotocus et des capacités auditives d'un T-Rex? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence tout de suite avec une grande voix de la paléontologie qui nous a quitté récemment, c'est notre archive du jour.
Il faut imaginer certains dinosaures très agiles, très graciles, aussi rapides que des autruches, et pas du tout lourdeaux et lents et indolents.
Quelques-uns, effectivement, ressemblaient à des sortes d'autruches, de poulets nus, avec d'énormes pattes de derrière et comme des toutes petites mains devant.
En effet, il y a toute une famille de dinosaures qu'on appelle les ornithomimines, qui miment donc les oiseaux, d'après le nom.
C'est mignon comme nom.
Et qui ressemblent tout à fait à des autruches. Et là, on aborde alors un autre volet de l'évolution et qui est récent dans les études et qui est tout aussi passionnant. C'est le problème des liens entre ces reptiles, ces dinosaures, et le monde des oiseaux. C'est qu'on s'est aperçu récemment, après les études de plusieurs fossiles, que ce sont les dinosaures, pas tous, une famille de dinosaures, naturellement pas le gros diplodocus, lourdeau, mais certains petits dinosaures, graciles, agiles, aux os complètement creux, et que l'on appelle les cellurosauriens, qui sont à l'origine des oiseaux que nous connaissons. Et ça, c'est un élément évidemment important et intéressant. Les oiseaux, au fond, ont pour ancêtre certains dinosaures. Ça a été une surprise, évidemment. On n'imagine pas que dans les jardins publics, les pigeons que l'on voit soient les descendants des dinosaures. Mais pourtant, c'est vrai.
Voilà, le grand Philippe Taquet dans les après-midi de France Culture en 1978. Jean Leleuf, les oiseaux, ce sont à proprement parler des dinosaures.
Oui, exactement. C'est un groupe bien particulier de dinosaures, dont on retrace les liens de parenté avec différentes espèces de dinosaures, notamment ceux que l'on connaît sous le surnom de raptors. Les raptors de Jurassic Park, en fait, appartiennent à une famille qu'on appelle les dromaeosauridés. Et dans ces dromaeosauridés, en fait, ont un squelette qui est extrêmement proche de celui des oiseaux. Ils sont considérés comme le groupe frère, donc le groupe de dinosaures le plus proche des oiseaux. Et ces oiseaux eux-mêmes, autant ces oiseaux de l'ère secondaire, en fait, on n'en avait qu'une très très faible connaissance il y a encore une vingtaine d'années. On connaissait le fameux Archaeopteryx, le plus vieil oiseau qui a 150 millions d'années. Et depuis une vingtaine d'années, il y a plus de 200 nouvelles espèces qui ont été décrites et tout un monde nouveau de volatiles de l'ère secondaire qui est apparu.
Archaeopteryx, c'était notre premier épisode hier qui est à podcaster sur l'appli Radio France. Mais je me tourne vers vous, François Thérien, pour avoir votre écoute des mots de Philippe Taquet.
Oui, bien, c'est ça. C'était réellement une grande découverte de voir que c'est ça, on pouvait réellement établir une connexion entre les oiseaux et les dinosaures. On percevait toujours les dinosaures comme étant des reptiles, mais maintenant on se rend compte que les oiseaux sont en fait des reptiles. Ce sont un groupe très spécialisé de petits dinosaures carnivores qui ont appris à voler. Il y avait aussi des petits dinosaures carnivores du genre les raptors qui ont aussi appris à voler durant le Mésozoïque, mais qui n'étaient pas aussi habiles que les oiseaux, les vrais oiseaux, les vrais représentants des oiseaux au Mésozoïque. Et les oiseaux ont juste été chanceux, là, 66 millions d'années, lors de la grande extinction de la fin du Crétacé, qui a marqué l'extinction des dinosaures et d'un grand groupe d'autres animaux également. Eh bien, les oiseaux ont été chanceux. Certains groupes d'oiseaux ont réussi à survivre. Il y a beaucoup de groupes d'oiseaux qui sont disparus en même temps que les dinosaures. Les dinosaures non aviens, je devrais m'en mentionner. Mais il y a certains groupes de dinosaures, de petits oiseaux, des oiseaux qui n'avaient pas de dents et qui n'avaient pas de queue non plus. Ceux-là ont survécu probablement parce que c'était des animaux qui se nourrissaient surtout de graines. Et puis, ça, on croit que ça leur a donné un avantage comparativement aux autres oiseaux qui vivaient aussi à la fin du Crétacé. Et puis, parmi de ces survivants-là, on a le groupe d'oiseaux modernes qui ont évolué et puis qu'on voit encore de nos jours. Donc, on peut dire que les oiseaux sont réellement, c'est pas juste qu'ils sont évolués à partir de dinosaures, c'est que les oiseaux sont des dinosaures de la même façon que les êtres humains sont des mammifères. Donc, c'est vraiment une grande découverte qui a été faite au cours vers la fin du 20e siècle et qu'aujourd'hui, on n'est pas à mesure qu'on fait des nouvelles découvertes.
Gérard Le Boucher, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive.
Eh bien oui, effectivement, les oiseaux sont des dinosaures, sont pas seulement des descendants de dinosaures, ce sont des vrais dinosaures, des dinosaures aviens. Et j'ai l'avantage sur mes deux collègues ici de pouvoir observer des dinosaures. D'ailleurs, c'est un avantage que je partage avec beaucoup de gens puisque chacun peut observer les oiseaux. Et effectivement, on est sur un groupe qui s'est spécialisé, enfin, qui a rayonné. On parle de radiation évolutive ou de rayonnement évolutif. C'est-à-dire que quand les grands dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, il y a eu beaucoup de place et le nombre d'espèces a éclaté, si vous voulez. Et ils ont acquis des spécialités, hein. Certains sont capables d'aller dans l'eau, comme les manchots qui sont capables de nager. D'autres sont de bons planeurs qui sont capables de faire le tour de la Terre, etc. Donc effectivement, on a des dinosaures et des dinosaures qui montrent leur intelligence dès que si on veut bien l'étudier.
Alors les dinosaures, c'est quand même une très large catégorie, une très longue histoire. On compte environ 1300 espèces de dinosaures, près de 50 nouvelles espèces qui sont découvertes chaque année. Il reste des dizaines de milliers d'espèces à découvrir. Donc évoquer le comportement des dinosaures, c'est assez absurde. C'est comme si on parlait du comportement des mammifères. Néanmoins, Jean Leloff, on peut quand même les classer en cinq groupes majeurs, ces dinosaures.
Alors là, c'est la phylogénie, en fait. Donc, on va les classer en cinq grands groupes en fonction de leur relation de parenté. On a deux grands surgroupes qu'on appelle les ornithischiens d'un côté, les saurischiens de l'autre. Parmi ces saurischiens, on a les grands dinosaures herbivores de type Diplodocus, Ampelosaurus, et puis les dinosaures carnivores qui font partie du même groupe où il y a le fameux Tyrannosaurus et également les oiseaux. L'autre grand groupe de dinosaures, c'est les ornithischiens, où on va trouver à nouveau trois groupes. Celui qui comprend les cératopsiens, le célèbre Triceratops, hein, les marginocéphales. Le deuxième groupe, c'est celui qui comprend Iguanodon et les hadrosaures notamment. C'est un groupe là qu'on appelle les ornithopodes. Et le dernier regroupe des dinosaures recouverts d'armures variées, qu'on appelle les thyréophores, comme les stégosaures ou les ankylosaures. Ça, c'est les cinq grands groupes qui ont été définis par des analyses phylogénétiques ces dernières décennies et sur lesquelles tout le monde est en gros d'accord, sur la classification desquelles tout le monde est en gros à peu près d'accord.
Donc aujourd'hui, si on veut étudier ces animaux et étudier justement ces espèces qui sont disparues il y a 66 millions d'années, François Thérien, on peut aujourd'hui, alors il y a plusieurs méthodes, Une des méthodes, c'est d'étudier justement leurs plus proches parents vivants. Donc d'un point de vue phylogénétique, on peut se pencher sur le comportement des crocodiles ou des oiseaux.
Oui, exactement. C'est ce qu'on utilise. Les méthodes, bien souvent, ça, c'est difficile d'interpréter seulement que les restes osseux qui nous restent des dinosaures, c'est difficile d'inférer quel était le fonctionnement ou le comportement de ces animaux-là. Donc, bien souvent, c'est ça, on se base sur les animaux les plus rapprochés des dinosaures. Et si on regarde les animaux sur l'arbre évolutif qui sont de chaque côté des dinosaures, on trouve plus près de la base de l'arbre évolutif, les animaux les plus rapprochés qui sont encore vivants de nos jours, ce sont les crocodiliens, les alligators et les crocodiles, les gavials. Et puis, plus évolués, on trouve bien entendu les oiseaux. Donc, on peut faire des inférences quand on regarde soit l'anatomie de ces animaux-là ou bien leur comportement. On peut essayer d'inférer quel aurait été le comportement possible des dinosaures. Donc, si on voit que c'est ça, une certaine caractéristique est présente chez les crocodiliens et chez les oiseaux. Donc, on peut inférer que les dinosaures qui sont dans une position plus intermédiaire probablement avaient aussi cette caractéristique-là. C'est quand on se trouve à des situations où seulement que l'un des groupes a ces caractéristiques-là ou aucun des deux groupes ne les possède, alors là, on est plus dans un terrain inconnu. On ne sait pas réellement quel était le comportement ou la nature anatomique de certains dinosaures, quel était leur fonctionnement ou leur comportement. Donc, c'est ça, on est un petit peu sur un terrain dangereux, une pente glissante, on pourrait dire, dans cette situation-là, mais bien entendu, on peut toujours se tourner un peu vers les oiseaux et les crocodiliens pour nous aider à inférer quelles auraient été les caractéristiques ou les comportements des dinosaures.
Oui, puisque l'ancêtre commun entre crocodiles et dinosaures a environ 245 millions d'années, les oiseaux actuels ont divergé il y a longtemps au cours du Jurassique. Gérard Leboucher, ça fait donc sens d'aller voir comment fonctionne un oiseau moderne pour essayer de comprendre un dinosaure?
Oui, ça fait sens. Alors, en écoutant, là, il y avait une idée qui me venait, c'est celle des comportements de soins aux jeunes, que l'on trouve, par exemple, chez des crocodiliens, et la mère crocodile va garder ses œufs, va les surveiller. Et puis, le comportement qu'on voit chez les oiseaux, évidemment, alors ça va de la couvaison, ou de la couvaison, pas dans des terrains où il fait chaud, etc. On va enterrer les œufs, comme chez les mégapodes, par exemple. Et donc, on a des comportements de soins aux jeunes un peu différents, mais que l'on retrouve très certainement chez les dinosaures, ça mes collègues vont pouvoir le dire mieux que moi, mais on a par exemple découvert des restes de dinosaures avec des œufs, et on avait cru que les dinosaures ils les avaient attrapés pour les manger. Le fameux oviraptor, tout à fait. Et alors, en fait, il s'est avéré que l'oviraptor était tout simplement en train de protéger ses œufs. Donc voilà, on trouve ça chez les crocodiliens, on trouve ça chez les oiseaux, au milieu on trouve ça chez les dinosaures non aviens.
Et c'est ça qui est d'exceptionnel aussi en ce moment, Jean-Luc. Enfin, ça fait quand même depuis 25 ans qu'on découvre d'innombrables lieux de ponte avec des nids, des œufs. Aujourd'hui, la méthode quand même principale pour étudier le comportement des dinosaures, ça reste justement l'étude de ces restes fossiles qu'on accumule depuis deux siècles.
Oui, c'est l'essentiel. Oui, on travaille sur ce que l'on trouve réellement, sur ces squelettes, ces œufs, sur également un autre type de fossile qui est devenu, que l'on trouve plus fréquemment ces derniers temps, qui était très rare il y a pas si longtemps. Ce sont les empreintes de pas de dinosaures. C'est des traces de dinosaures que les dinosaures ont laissées sur du sable. Le sable s'est durci, est devenu une roche. Et on peut suivre comme ça le déplacement d'un ou plusieurs dinosaures sur des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est aussi quelque chose qui nous apporte évidemment des infos sur le comportement et notamment la vie sociale de ces animaux. Après, par rapport aux squelettes, aux œufs que l'on peut trouver, les nouveautés ces dernières années, c'est la façon dont on les étudie. Ça fait deux siècles qu'on travaille sur des squelettes de dinosaures, mais ça fait seulement deux petites décennies que l'on peut investiguer en fait l'intérieur de ces os, l'intérieur de ces crânes, sans avoir à les détruire, avec les méthodes assez récentes d'imagerie dont on dispose aujourd'hui.
Eh bien justement, quelles sont ces méthodes? Comment les questions paléo-comportementales avancent-elles grâce aux progrès technologiques? Comment mesurer les capacités cérébrales d'un dinosaure? On poursuit.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Un extrait de la série Netflix Les Dinosaures, produit par Steven Spielberg. Nous sommes en direct sur France Culture et on poursuit notre série spéciale aujourd'hui. L'étude de la cognition dinosaurienne avec Gérard Le Boucher, Jean Leleuf et François Terrien. Alors l'intelligence des dinosaures, ça ne veut pas dire grand-chose. On a pendant longtemps, François Terrien, pendant longtemps pensé que les dinosaures possédaient un minuscule cerveau avec des comportements assez simples, voire stupides. Bon, on se rend compte que c'est bien plus complexe.
Oui, ça, au tout début de la paléontologie, quand on découvrait des crânes de dinosaures, on voyait que l'espace occupé par le cerveau, la voûte crânienne, était réellement minuscule comparé à ce qu'on voit chez les mammifères. Chez nous, on est réellement les créatures étranges du monde moderne où notre cerveau occupe la plus grande partie de notre crâne, mais si on regarde outre les oiseaux qui sont aussi semblables aux mammifères de cette façon, tous les autres animaux ont réellement des cerveaux très, très, très minuscules comparés à la grosseur du crâne entier. Donc, c'était pour ça que les paléontologues à l'origine croyaient toujours que les dinosaures étaient des créatures stupides et très lentes avec des comportements très simples. Or, on se trouve que c'est pas le cas, que si on fait des comparaisons avec ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, si on regarde le volume de la voûte crânienne où le cerveau était situé et on le compare à la taille de l'animal, on voit que les dinosaures avaient, oui, n'étaient pas aussi avancés du point de vue cognition que les mammifères et les oiseaux, mais ils étaient quand même plus évolués que les amphibiens et la grande majorité des reptiles, des lézards. On trouve même certains que les plus gros dinosaures, par exemple les sauropodes, les dinosaures à long cou qui ressemblent un peu à des girafes, ou les stégosaures, les dinosaures à armure qui ont des plaques sur le dos, les ankylosaures, les dinosaures cuirassés, eux avaient réellement des cerveaux très minuscules, très petits, donc ils devaient réellement avoir des comportements plutôt simples, mais suffisant pour que l'animal puisse survivre et faire ces comportements habituels, parce que ces animaux ont vécu pendant des millions d'années, donc c'est pas qu'ils étaient stupides et que ça les a menés à leur extinction. J'avais juste des comportements simples, mais suffisants pour leur survie. Mais quand on voit les dinosaures, surtout les dinosaures carnivores, les dinosaures herbivores du genre dinosaure à bec de canard, ceux-là avaient un cerveau qui était plus équivalent en taille proportionnellement à leur poids, à leur taille, qui était similaire aux crocodiles modernes. Donc, ça nous montre que les crocodiles modernes ont quand même des comportements assez avancés. Donc, on peut voir que certains dinosaures avaient probablement des comportements aussi évolués que ceux des crocodiles modernes. Et il y a un petit groupe de dinosaures carnivores, ce qu'on appelle les maniraptors. Ce sont comme les raptors, les troodontides, des petits dinosaures carnivores qui sont très rapprochés des oiseaux. Alors là, eux, leur cerveau, leur quotient d'encéphalisation était plus élevé que ceux des crocodiles et se rapprochait de ce qu'on voit chez certains oiseaux, surtout spécialement les canards. Donc, on peut pas dire que les canards, ce sont des animaux très intelligents qu'on peut envoyer en des missions secrètes d'exploration ou d'espionnage, comme on voit dans les parcs le monde jurassique. Mais quand bien même, ce sont des oiseaux qui ont un comportement plus avancé que ce qu'on voit chez les crocodiles. Alors, on peut voir que ça, d'après la taille du cerveau, on peut émettre l'hypothèse que si les petits dinosaures carnivores étaient quand même, avaient des comportements assez avancés, une intelligence assez avancée. Rien pour du niveau qu'on voit chez les mammifères modernes où on peut résoudre nécessairement des problèmes, mais quand même devait sûrement avoir des comportements plus avancés. Donc, on peut faire émettre des hypothèses, inférer les capacités cognitives de certains dinosaures en partant de la taille ou du volume du cerveau. Mais encore une fois, il faut faire attention de ne pas pousser l'enveloppe un peu trop loin dans nos hypothèses.
En tout cas, ce quotient d'encéphalisation que vous évoquez, ça c'est quelque chose de rendu possible, Jean Leloeuf, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, notamment les microtomographes à rayons X, ou aussi appelés CT-scan. Ça permet d'accéder à l'intérieur des crânes fossilisés, ça permet d'étudier la forme du cerveau, de l'oreille interne des différents groupes de dinosaures, c'est une révolution technologique.
Oui, c'est une révolution technologique. C'est la même que celle des scanners dans lesquels nous passons de temps en temps pour vérifier l'état de nos organes. En un petit peu plus puissant pour pouvoir traverser la roche, puisque les ossements, les crânes de dinosaures sont fossilisés, donc sont minéralisés. Donc c'est comparable leur densité est assez comparable à de la roche. Et avec ces nouveaux outils, ces outils, ce que l'on peut faire, c'est vraiment distinguer des différences de densité à l'intérieur du crâne entre l'os fossilisé et le remplissage par du sédiment, par des minéraux, de la roche, des anciennes cavités qui existaient du vivant de l'animal. Alors, évidemment, il faut faire un peu attention parce que l'image de cavité cérébrale n'est pas, comme vient de le dire, une image fidèle de la forme du cerveau. C'est vraiment une approximation. La bonne image que j'aime bien employer, c'est que c'est un petit peu le cerveau d'un dinosaure. C'est un peu comme un pâté en croûte, la matière cérébrale. C'est le pâté, et puis la croûte autour, c'est tout ce qui est méninges, vaisseaux sanguins, etc., etc. Néanmoins, on peut avoir quand même quelques idées sur les parties du cerveau qui sont le plus développées chez certaines espèces de dinosaures. Évidemment, ça varie suivant les espèces. Mais pour reprendre quelques espèces emblématiques, bon, les petits dinosaures carnivores, c'est souvent la partie des hémisphères, en fait, du cerveau qui est plus développée. Chez des formes comme le tyrannosaure, par exemple, une des parties les plus développées, c'est la partie antérieure du cerveau, c'est les lobes olfactifs. Ce qui a permis à certains collègues d'essayer d'estimer le pouvoir olfactif d'un animal comme le tyrannosaure, et de se rendre compte qu'il était en fait très développé, peut-être même plus développé que celui d'un chien actuel ou d'un cochon. Ce qui permet d'ailleurs de faire une parenthèse ici, on parle de l'intelligence, entre guillemets, on parle plutôt des capacités sensorielles, d'essayer d'estimer les capacités sensorielles de ces animaux, sachant que tous les animaux vivent dans le même monde physique que nous, mais ont un univers sensoriel différent. On vit dans le même monde qu'un chien ou qu'une puce, mais avec une vision, une sensation de ce monde différente. Et chez les dinosaures, on a évidemment la même chose.
Le bulbe olfactif d'un T-Rex, alors comment justement mesurer les capacités cérébrales de ce dinosaure et notamment son acuité visuelle?
Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.
Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement.
François Terrien, face à un vrai Tyrannosaurus, rester immobile la nuit pour lui échapper, ça aurait servi à pas grand-chose finalement. Sa vision, on voit justement avec son bulbe olfactif que le T-Rex avait une vision très très fine.
Oui, bien, le bulbe olfactif est responsable pour le sens de l'odorat. Donc, comme M. Leleuf l'a mentionné, on peut regarder en voyant la taille relative du bulbe olfactif, qui est la partie du cerveau responsable du sens de l'odorat, par rapport aux hémisphères cérébraux, on peut quantifier ou semi-quantitativement évaluer, obtenir un indice qui nous indique, OK, il nous donne un chiffre et qui nous dit est-ce que le sens de l'odorat était plus développé chez certaines espèces que chez d'autres. Alors, j'ai mené cette étude chez les dinosaures carnivores et on a vu que oui, les tyrannosaures et les raptors avaient un sens de l'odorat semblait plus développé que celui des autres dinosaures carnivores parce que leur bulbe olfactif était beaucoup plus gros, ce qui nous indique que c'est un bulbe olfactif du point de vue taille probablement similaire à ce qu'on voit chez les alligators modernes. Et les alligators modernes ont un sens de l'odorat très développé. Ils sont capables de sentir une carcasse de jusqu'à 2 ou 3 kilomètres de distance. Donc, c'est un très bon sens de l'odorat. Donc, ça nous indique que probablement les tyrannosaures et les raptors étaient capables d'utiliser le sens de l'odorat pour essayer de trouver leur nourriture. Mais le clip que vous avez fait jouer à propos du parc jurassique, ça a été un mythe. On l'ignorait quel était le sens de la vue chez les dinosaures parce que les yeux, eux, ce sont des tissus mous, donc ils ne se fossilisent pas, ils se décomposent et on n'a aucune idée de quel était le sens de la vue. Alors, pour le film, à l'époque, paléontologue avait suggéré que, oh oui, peut-être on peut suggérer que la vision du tyrannosaure n'était pas très bien développée, mais ce mythe-là, qu'on peut dire, a généré des idées de recherche. Et un chercheur, quelques années après que le film soit sorti, a décidé de jeter un coup d'œil pour déterminer quel était le sens de la vue chez le tyrannosaure et a déterminé, en fait, que puisque les yeux du tyrannosaure étaient réellement orientés vers l'avant, qu'ils avaient une très bonne perception de distance. Ils n'avaient pas besoin que leur proie soit mobile, que se bouge afin de pouvoir la détecter. Alors là, le conseil que le paléontologue avait suggéré, si on ne bouge pas, on est sain et sauf, il n'y a pas besoin de se soucier d'être mangé par un tyrannosaure. Eh bien, ça, c'est le pire conseil qu'un paléontologue ait jamais donné, responsable pour la mort de cette petite fille-là, parce que le tyrannosaure aurait été capable de très bien percevoir les gens qui étaient en face de lui, même si ça tenait immobile. Et avec son sens de l'odorat, il aurait probablement été aussi capable de les sentir. Donc, si jamais vous vous trouvez face à face, si un jour on est capable de ramener des tyrannosaures à la vie par l'ADN ou quelque autre développement scientifique, eh bien, prenez vos jambes à vos coups, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que rester immobile, ça ne vous aidera pas si vous faites face à un tyrannosaure rex.
Alors, cette capacité olfactive, le bulbe olfactif qui, comme son nom l'indique, c'est l'organe de l'odorat, Gérard Le Boucher, chez les espèces modernes d'oiseaux, on voit aussi qu'ils ont de gros bulbes, ceux qui ont des gros bulbes olfactifs. On sait qu'il se passe beaucoup aussi sur l'odorat pour trouver de la nourriture, par exemple.
Alors, historiquement, les oiseaux ont été considérés comme des animaux, d'abord, je reviens un peu sur ce qui a été dit avant, qui avaient des petites têtes. Ça s'est rentré dans le langage commun. On dit une tête de linotte, on dit des choses comme ça pour dire ils avaient une petite tête. Et donc effectivement, les gens se demandaient, mais d'accord, la tête est en rapport avec leur taille, mais globalement, la tête est tellement petite qu'ils ne doivent pas pouvoir faire grand-chose avec. Jusqu'au moment où, et c'est assez récent, il y a quelques dizaines d'années, on s'est aperçu que les neurones des oiseaux, qui sont aussi des dinosaures, étaient beaucoup plus compacts que les neurones qu'il y a dans la tête des mammifères, par exemple, et qu'à taille de cerveau égale, il y avait plus de neurones chez les oiseaux que chez les mammifères.
C'est-à-dire que c'est pas la taille qui compte, mais la densité.
C'est la densité, le nombre de neurones, etc. Donc, effectivement, j'avais envie de dire, un petit cerveau ne protège pas de l'intelligence. Voilà, les oiseaux sont une bonne illustration de cela. Alors, quant à l'olfaction chez les oiseaux, pendant très longtemps, les gens ont dit « Oh, c'est quelque chose qui sert à rien ». Et en fait, on s'aperçoit que les oiseaux, notamment les oiseaux marins, se servent des odeurs des paysages pour essayer de retrouver leur chemin quand ils vont chasser, et aussi pour retrouver des proies dans la mer. Donc ils peuvent utiliser l'odeur comme un des signaux, comme une façon de retrouver des proies, par exemple.
Voilà, on vient de dire que les carnivores chez les dinosaures ont un cerveau relativement plus gros que celui des herbivores. Il faut une coordination pour traquer une proie plus vive que pour choisir la meilleure fougère. Du côté des sauropodes, les bulbes olfactifs étaient moins développé, ça peut, était bien développé justement. Ça voulait dire qu'ils étaient assez sensibles aux odeurs, probablement.
Sans doute, oui. Mais alors, il y a différents. Effectivement, il y a les odeurs, mais il y a aussi le bruit, il y a aussi le mouvement, etc., qui peuvent être pris en compte dans la recherche d'une proie. Alors, ce qu'on a aussi chez les oiseaux au niveau de la vision, et puis chez les animaux vivants actuellement, c'est que quand on a les yeux devant, comme nous. Et en général, on est des prédateurs. Alors nous, c'est peut-être autre chose. On est des prédateurs parce que ça permet de mieux voir devant et de bien voir la proie et de calculer les distances. Alors que quand on a une proie, on a plutôt les yeux sur le côté de la tête. Il y a certains oiseaux qui voient quasiment derrière leur tête, qui leur permet de voir finalement les prédateurs. Donc déjà, la façon dont les yeux sont implantés finalement au niveau du crâne est une indication de la façon dont ils vivent. Or, chez nous, nos ancêtres auraient eu besoin de ça pour éviter de prendre les arbres quand ils couraient de branche en branche. Donc les singes, les anthropoïdes, ont en général des yeux aussi devant la tête, si vous voulez, sans que ça soit forcément un signe de prédation.
Voilà, les capacités visuelles des dinosaures de la taille et de la position de leur orbite, mais aussi quelle était leur capacité sensorielle. Est-il possible même d'envisager une reconstitution de leur vocalisation? On y vient. De T-Rex sur France Culture, car nous parlons de la cognition de ces théropodes, mais pas seulement, on parle de cognition dinosaurienne avec nos trois invités du jour. Gérard Leboucher, éthologue, professeur émérite spécialisé dans le comportement des oiseaux. Jean Leboeuf, paléontologue et directeur du musée des dinosaures d'Esperanza dans l'Aude. Et François Thérien, paléontologue au musée royal de Tyrrell en Alberta et spécialiste des dinosaures. On vient de voir que les fossiles et les endocrânes nous permettent d'étudier la forme du cerveau des dinosaures. On a évoqué l'importance du bulbe olfactif. On vient d'évoquer la vision et l'importance également de la taille et de la position des orbites chez le T-Rex. Qu'en est-il chez les autres espèces, François Thérien ?
Eh bien oui, on peut aussi déterminer, c'est comme Vous l'avez mentionné plus tôt, d'après la position des yeux sur le crâne, s'ils sont positionnés plus sur le côté, alors là, on a affaire à des animaux qui ont une plus grande vue périphérique au lieu d'avoir une vue binoculaire, c'est-à-dire que ce que les deux yeux voient se chevauchent grandement, ce qui donne une bonne perception sensorielle de profondeur. Certains animaux ont des yeux plus sur le côté, comme on peut voir chez l'allosaure, le fameux dinosaure carnivore du Jurassique. Eux avaient des yeux situés plus sur le côté, similaire à ce qu'on voit chez les pigeons et chez les crocodiles modernes. Alors là, ces animaux-là, eux, probablement, pour détecter leur proie, pour voir leur proie, cette proie-là devait être en mouvement, pour qu'il puisse détecter le mouvement par rapport à l'arrière-fond qui, lui, était immobile. Alors, c'est probablement pour la majorité des dinosaures carnivores, probablement que c'est ça, il y avait des yeux plus positionnés sur les côtés du crâne. Alors, il fallait réellement que la proie se déplace afin qu'elle soit détectée par le prédateur. Mais il y a certaines espèces, comme on a mentionné le tyrannosaure, mais d'autres espèces comme le vélociraptor ou les troodontides, d'autres petits dinosaures carnivores qui, eux, avaient des yeux réellement centré, faisant face vers l'avant, qu'il y avait un degré de chevauchement entre ce que les deux yeux voyaient, équivalent à ce que les hiboux voient de nos jours. Donc, eux avaient réellement un sens de perception qui était réellement très avancé. Et ça devait être utile pour eux pour localiser leur proie, surtout quand on parle de petits dinosaures carnivores qui devaient chasser de petites proies, peut-être des lézards, peut-être des oiseaux jurassiques ou même des petits mammifères. Alors, là, d'avoir réellement des yeux qui faisaient face vers l'avant afin d'avoir une bonne vue binoculaire. Alors, c'est là que chez ces animaux-là, avoir les yeux qui faisaient face vers l'avant, ça devait grandement les aider à détecter leur proie et de la capturer. Pour ce qui est les dinosaures herbivores, eux avaient des yeux un peu plus sur le côté, comme on l'a mentionné plus tôt. C'était sûrement une méthode de protection. C'était pour réellement être capable de voir s'il y a un prédateur qui s'approche de nous, si on est capable de voir en avant, mais aussi pratiquement derrière soi-même sans avoir à se tourner la tête. Alors, c'est un avantage à la survie parce qu'on pouvait voir un prédateur potentiel s'approcher, essayer de nous surprendre. Alors, c'est ce qu'on voit d'après la position relative des orbites dans le crâne. S'ils sont plus orientés vers l'avant ou plus vers le côté, on peut émettre des hypothèses quant au sens de la vue des dinosaures. Malheureusement, on n'a pas de rétine ou bien de lentilles oculaires qui sont fossilisées. Donc, on ne peut pas réellement déterminer quelle aurait été l'acuité visuelle de certains animaux. Il y a un chercheur qui avait fait l'étude chez le tyrannosaure et avait émis certaines hypothèses. Si l'œil du tyrannosaure était semblable à celle d'un pigeon, alors là, il aurait été capable de voir jusqu'à, je crois, c'était 200 mètres en avant de lui. Mais s'il y avait des yeux semblables à ceux d'un aigle ou d'un faucon, alors là, il était capable de voir jusqu'à 6 kilomètres en avant de lui, tandis que nous, les êtres humains, je crois qu'on est capable de voir ces 2 ou 3 kilomètres, avoir une bonne image pour percevoir quelque chose. Donc, c'est ça, encore une fois, c'est un peu hypothétique. On émet des hypothèses parce qu'on n'a pas les parties nécessaires de fossiliser afin qu'on puisse vraiment déterminer quelle était l'acuité visuelle du tyrannosaure. Oui. Mais on peut émettre des hypothèses en regardant les oiseaux modernes pour voir que si l'œil du tyrannosaure était structuré d'une telle façon, alors là, on peut avoir un peu de plaisir à essayer d'y mettre des hypothèses quant à l'acuité visuelle de ce grand prédateur.
Alors, sur les acuités visuelles, en effet, par exemple, en résumé, beaucoup de dinosaures avaient plutôt des grands yeux, pouvaient bien voir en quelle couleur ça. On n'en sait rien. Sur les capacités auditives maintenant, Jean Leleuf, on peut comprendre aussi leur capacité auditive en s'appuyant sur les travaux consacrés à l'ouïe des oiseaux.
Oui, en détournant les travaux qui ont été consacrés à l'ouïe, effectivement, des oiseaux, on peut essayer de les appliquer aux dinosaures et d'essayer de tirer quelques conclusions sur ce qu'ils pouvaient entendre, ou plus exactement sur d'ailleurs les fréquences qu'ils pouvaient entendre. Ça passe à nouveau par nos scanners et par l'étude en fait de la forme de l'oreille interne et d'une partie de l'oreille interne qui est directement liée chez les animaux actuels à la fréquence, à la gamme de fréquences qu'ils peuvent entendre, que ce soit dans les infrasons, ultrasons ou la gamme de sons normaux, entre guillemets, c'est-à-dire ce que nous pouvons entendre entre 20 et 20 000 à peu près hertz. Et ça marche assez bien de mesurer donc cette partie de l'oreille interne et de déterminer les fréquences auxquelles entendaient les dinosaures. Alors ça marche bien, entre autres, pour les espèces, les quelques rares espèces de dinosaures chez lesquels on a également pu reconstituer, ou du moins avoir une idée de leur voix. Parce que la vocalisation des dinosaures, ça c'est un problème difficile à résoudre, mais évidemment qui n'est pas impossible pour les paléontologues qui ont des ressources.
La vocalisation des dinosaures, en effet, on a des tentatives, notamment avec le Parasaurolophus, un adrosaure nord-américain, qui a un gigantesque tube sur le crâne. C'est le premier dinosaure dont la voix a pu être reconstituée en 2016. C'est un son qui est plutôt proche du tuba. Jean Le Goeuf, finalement, comment on arrive ou pas à pouvoir reconstituer ce type de vocalisation?
Alors, c'est que Parasaurolophus, le responsable de ce bruit curieux, est pourvu d'une très grande crête sur le crâne qui est reliée au larynx. Et ça date même de bien avant 2016. Dès 1981, il y a le paléontologue américain David Weissample qui a fait passer de l'air dans une reconstitution de ce crâne creuse et qui a pu enregistrer ce type de son. Son que l'on retrouve d'ailleurs, enfin un petit peu différent, mais chez d'autres espèces d'adrosaures, comme Hypacrosaurus par exemple, d'autres adrosaures américains, faisant le même principe, on retrouve des sons généralement très graves comme ça. Avec une chose assez amusante, c'est que chez les jeunes, on va trouver des gammes de sons plus élevés en fréquence, des sons plus aigus en fait. Ils émettaient des sons plus aigus que leurs parents. Et si on analyse l'oreille interne des mêmes formes, on voit que les parents pouvaient entendre jusqu'à la fréquence de leurs petits. Donc ça tombe bien, les parents pouvaient entendre les petits criés. Mais c'est pour l'instant les seules espèces de dinosaures, ces adrosaures pourvus de grandes crêtes sur la tête, pour lesquelles on a pu reconstituer à peu près correctement, pense-t-on, le son qu'ils émettaient. Pour les autres, ça reste encore un territoire difficile.
Et encore d'imagination, malheureusement. Voilà, c'est compliqué d'évaluer les voix des dinosaures. Par contre, c'est plus facile de reconstituer leur locomotion. On en parle avec le reportage du jour. S'il est difficile d'étudier la cognition des dinosaures, faute de fossiles cérébraux, il est possible d'étudier les facultés corrélées, comme la locomotion, une fonction qui doit s'adapter à l'environnement et la morphologie du spécimen au cours de l'évolution. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée au laboratoire des mécanismes adaptatifs et évolution du MNHN pour découvrir comment on parvient à déterminer les modes de déplacement des dinosaures.
Oui, car s'il est admis qu'à l'origine les dinosaures étaient globalement bipèdes, eh bien au cours de l'évolution, certains groupes sont revenus à un stade quadrupède. La question est pourquoi? La paléontologue Alexandra Houssaye étudie ces transitions de posture à partir d'ossements plus ou moins complets. Avec un humérus ou un fémur par exemple, on peut inférer la morphologie globale d'un spécimen. En les scannant en 3D et par modélisation biomécanique, on peut alors simuler du mouvement pour déterminer le mode de locomotion le plus naturel possible, en fonction de la taille, de la médiane corporelle ou bien du centre de gravité.
Là, on se situe au dernier étage de la Grande Galerie de l'Évolution, donc au-dessus des galeries qui se visitent, au-dessus de la galerie des animaux récemment disparus, d'ailleurs. Nous, on a des zoos autour de nous, mais seulement les zoos qui sont d'espèces de relativement petite taille, donc pour les projets qui sont sur des organismes plus petits. Pour tous les gros, on va les digitaliser directement en collection, on essaye de les sortir le moins possible. Donc moi, je cherche à comprendre comment étaient mes bêtes qui vivaient dans le passé, j'essaye de reconstituer leur biologie. Mais ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est le comment ça s'est fait et quelles sont les étapes de l'évolution qui ont conduit à ces changements au cours de l'évolution. Et donc là, pour ce qui est de la posture quadrupède, notre but, c'est pas seulement d'être capable de dire « toi, t'étais bipède, toi, t'étais quadrupède », mais c'est d'essayer de comprendre comment on est passé d'un état bipède à un état quadrupède, qu'est-ce qui va changer d'abord au sein du squelette, et pour essayer de mettre ça en lien avec vraiment une évolution, pour comprendre, parce que l'évolution, elle se fait tout le temps en mosaïque. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines choses qui vont changer, mais pas d'autres. Et en fait, on peut avoir plein de formes un peu intermédiaires qui vont montrer des combinaisons différentes de changements adaptatifs pour être un quadrupède. Et donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a eu une seule transition très brutale ou est-ce qu'on voit toutes ces formes un peu intermédiaires qui montrent que ça s'est fait en tâtonnant au fur et à mesure vers ensuite un extrême quadrupède qui là, a toujours les mêmes marqueurs de quadrupédie.
De quelle manière vous pouvez étudier la posture des dinosaures à partir d'ossements, à partir de traces ?
Donc nous, on se concentre sur l'étude des ossements, essentiellement. Donc on est des spécialistes de l'étude du squelette. Et on va regarder les os, mais à plusieurs échelles. D'abord, on va regarder leur forme et on va comparer, puisque c'est de l'anatomie comparée qu'on fait. Donc on prend des os de nos bêtes d'intérêt et puis on les compare avec les os d'autres espèces. Et on essaye de regarder quelles caractéristiques ces os vont avoir. Donc pour ça, on essaye maintenant de faire des analyses beaucoup de façon qualitative, c'est-à-dire on observe, on code des caractères, mais nous, on travaille aussi beaucoup de façon quantitative, où là, on va essayer de mettre des points repères un peu partout sur nos os, en trois dimensions, pour essayer de prendre en compte toute la diversité de la forme de l'os dans sa globalité. Et après, on met ça dans un logiciel et on fait des calculs de distance qui va nous dire que cet os-là, il est plus proche de cet os-là, etc. Et après, on essaye de comprendre, en faisant des opérations mathématiques, de savoir est-ce que ce changement de forme, il a l'air d'être lié à la masse, par exemple. Est-ce qu'il est très corrélé avec les changements de masse? Est-ce qu'il est très corrélé avec la posture suggérée chez ces animaux? Est-ce qu'il est très corrélé avec les relations de parenté entre les organismes, etc. pour, au travers de toute cette diversité de formes, tenter d'extraire ce qu'on appelle des relations forme-fonction, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi tu as cette forme, pour répondre à quelle fonction. Et donc là, est-ce que cette forme-là correspond à un type bipède et est-ce que cette forme-là correspond à un type quadrupède ?
Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme les articulations ou les attaches musculaires qui peuvent être signifiantes, éclairantes dans la posture ?
Oui, alors on regarde effectivement les attaches musculaires. Donc ça va nous servir pour les études de biomécanique. On fait des études comparatives et à partir de là, on émet des hypothèses. On y met des hypothèses de relation forme-fonction. Et ces hypothèses-là, il faut qu'on les teste ensuite pour savoir si elles tiennent. Donc pour ça, on va faire des modélisations biomécaniques. Donc soit on les fait sur les os pris un par un. On va estimer quelles contraintes on peut appliquer dessus et voir comment l'os répond à ces contraintes. Mais pour estimer ces contraintes, il faut avoir une bonne connaissance déjà de la position, de l'orientation des os au sein du squelette. Donc tout ça, ça demande une modélisation de l'animal en trois dimensions. Et ensuite, de l'application des forces. Et donc pour ça, il faut qu'on sache à la fois les zones de contact, mais également les zones d'insertion musculaire pour savoir à quel endroit on va tirer sur le squelette. Et pour reconstituer un dinosaure en 3D, c'est assez compliqué parce qu'il est très rare qu'on ait des spécimens complets. Et ensuite, il faut aussi qu'on estime son volume global pour avoir une idée de la masse de l'organisme dans notre modélisation. Donc tout ça, c'est des choses assez compliquées. Et souvent, il n'y a pas une vérité. Mais en fait, ce qu'on doit faire, nous, dans nos études de morphologie fonctionnelle, c'est réduire le champ des possibles.
Est-ce que c'est possible de voir une de ces modélisations ?
Donc là, c'est une modélisation d'un dinosaure qui est du groupe des iguanodons, sur lesquels travaille Jordan Gonnet. Et donc, pour faire cette modélisation, il a dû essayer d'en reconstituer à peu près le volume. Donc, c'est des bêtes qui font à peu près dans les 6 mètres de haut, qui font dans les 10 mètres de long. Donc c'est déjà une belle bête, mais bon, ça, le modèle s'en fiche un petit peu. Mais il a regardé l'intégralité des os, les attaches musculaires. Et donc là, vous pouvez avoir ce genre de modèle où là, il est placé dans une posture quadrupède. Donc on voit déjà, est-ce que ça a une bonne tête ou pas? Est-ce qu'il tient bien quand il est dans une posture quadrupède?
Est-ce qu'il est équilibré et stable?
Voilà, tout à fait. Et en plus, on peut voir aussi quand il est dans une posture quadrupède, si on a estimé sa masse, on peut avoir une idée des contraintes qui sont appliquées sur chaque os et voir est-ce que ça semble possible que les os puissent supporter une telle contrainte.
Est-ce que c'est vraisemblable par rapport au poids du corps? Là, on sent qu'il y a beaucoup de charge vers l'arrière.
Oui, alors après, c'est toujours ça. On doit réussir à positionner. Parce qu'en fait, c'est vraiment la position du centre de gravité qui va déterminer est-ce que l'animal va être bipède ou quadrupède. Donc forcément, pour être bipède, il faut avoir un centre de gravité plus vers l'arrière hein, pour tenir sur nos membres postérieurs. Et s'il est plus vers l'avant, on est obligé de tomber. Hein. C'est comme nous, si on ramasse un truc hyper lourd d'un coup dans nos membres, on a intérêt à... Soit on se redresse bien en s'appuyant sur les talons, soit on tombe vers l'avant. Et donc là, il est en posture quadrupède, mais à l'arrêt. Et puis après, quand il est mis en mouvement, on peut voir justement, vous avez ce modèle qui va s'animer comme ça. Et puis, on va augmenter dans le logiciel la vitesse de l'animal, et voir déjà si ce qu'on voit, c'est logique. C'est en faisant des modèles comme ça, par exemple, qu'on a pu voir que si on mettait une locomotion très rapide sur le T-Rex, il y avait des mouvements de queue qui étaient totalement invraisemblables. Et donc, ces modélisations nous permettent de voir ce qui est faisable, pas faisable. Et donc là, nous, c'est de voir justement à partir de quelle vitesse on va avoir potentiellement un changement de posture ou pas chez ces organismes.
Merci Céline Lauzen. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur votre application préférée, l'application Radio France bien sûr. Gérard Le Boucher, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, alors pour les oiseaux, effectivement, on se pose pas trop de problèmes. Les oiseaux sont bipèdes, et les oiseaux sont bipèdes pour la bonne raison qu'ils ont transformé, enfin que au cours de l'évolution, les membres antérieurs se sont transformés en ailes, et que ces ailes sont nécessaires pour le vol. Et ça a quand même des conséquences importantes, puisque quand on a des mains, on peut s'en servir pour attraper de la nourriture, pour capturer des proies, etc. Les oiseaux sont privés de tout cela. Donc, il leur reste leurs membres postérieurs, leurs pattes, leurs griffes, et il leur reste leur bec. Et donc, la grande invention des oiseaux, finalement, c'était d'abandonner un museau avec des dents, comme on a chez des dinosaures, et d'avoir une tête beaucoup plus ronde, hein, beaucoup plus juvénile, sur laquelle vient s'implanter une excroissance cornée, qui est le bec. Et avec le bec, les oiseaux sont capables de faire des choses que nous faisons avec la main, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre des objets, ils sont capables d'aller chercher de la nourriture, et dans les expériences qui ont été faites, par exemple, avec des corbeaux calédoniens, qui sont les vedettes un petit peu de l'intelligence des oiseaux, on s'est aperçu qu'ils sont capables de récupérer des baguettes, de monter deux baguettes l'une sur l'autre s'il y a quelque chose qui permet de les relier, et puis avec ça, d'aller chercher de la nourriture dans un endroit inaccessible. Donc les oiseaux ont leurs mains au milieu de la figure, et ayant leurs mains au milieu de la figure, finalement, ils n'ont pas besoin des deux autres... Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'ils ont eu leurs deux membres antérieurs qui sont transformés en ailes, et pour avoir une certaine dextérité, eh bien, ils ont eu besoin de leur bec.
En effet, sur leur capacité d'outillage fascinante, là, on évoquait leur posture. Par rapport aux dinosaures, on a très rapidement évoqué la vie sociale des dinosaures, mais on a aussi donc certaines preuves de comportements qui peuvent entrer dans ce qu'on peut appeler de l'intelligence émotionnelle également, Gérard Le Boucher.
Sur les dinosaures?
Tout à fait, oui, on parlait justement de cet oviraptor très mal nommé qui ne mange pas ses œufs, mais qui les couvait par exemple.
Oui, tout à fait. Donc les dinosaures ne sont pas les grosses brutes auxquelles tout le monde avait envie de croire au départ. D'ailleurs, les dinosaures au départ, on les représentait avec des écailles, comme des dragons, comme des grands sauriens. Certains paléontologues ont dit, mais on a découvert des traces de plumes chez des dinosaures qui n'étaient pas des dinosaures qui volaient, c'était des dinosaures qui couraient par terre. En Chine notamment, il y a eu des découvertes. Donc, ils n'étaient pas exactement comme qu'on se plaît à les imaginer. Et donc, effectivement, les comportements de soins aux jeunes... Alors, beaucoup d'études que j'ai vues tentent à dire que c'est les mâles qui s'occupaient souvent de leurs jeunes.
Et voilà, c'est fantastique de finir une émission sur les dinosaures et aussi des papas poules. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Un grand merci à vous trois. Gérard Le Boucher, on peut retrouver votre ouvrage en librairie Dans la tête d'un oiseau, paru en 2024. Jean Leleuf, Dans la peau d'un dinosaure, dans la collection Point Science, est également disponible. Tout de suite, on quitte les dinosaures pour les chats. C'est la chronique avec Science.
Que nous apprend la première cartographie génétique des cancers des chats? Et oui, c'est l'une des grandes causes de mortalité chez le chat domestique. On dit l'une des grandes causes, car il est impossible de donner un classement précis sur la place du cancer face aux autres pathologies. Il n'y a pas d'études épidémiologiques de grande ampleur, et puis cela dépend des conditions de vie de l'animal, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison par exemple. Mais disons que les chats qui vivent au-delà de 8 ans ont un risque élevé de développer un cancer. On retrouve ainsi chez le chat des cancers mammaires, des cancers de la peau, des lymphomes, comme chez nous, et c'est précisément ce qui en fait des modèles très précieux pour la recherche. Marine Englebert est enseignante-chercheuse à l'école vétérinaire Unilassalle à Rouen. Elle a réalisé ses travaux lors de son doctorat à l'université de Berne.
Les chats, ils vont développer des cancers qui sont spontanés. Donc c'est des chats qui tombent malades au fur et à mesure qu'ils deviennent âgés, qu'ils accumulent des mutations, qu'ils sont exposés à différents facteurs de risque. Et ça, ça arrive dans une population qui est génétiquement diverse et aussi avec un système immunitaire qui est mature, qui est exposé à différents types de pathogènes dans l'environnement. Et ça, ça les rapproche beaucoup plus des patients humains que les modèles expérimentaux classiques comme les souris de laboratoire, qui elles vont toujours être dans leur cage avec un environnement très contrôlé et qui vont pas développer des cancers spontanés en fait. Et par rapport à l'environnement, les chats de compagnie en particulier, ils vont vivre dans nos maisons, nos appartements, et ils vont donc être exposés aux mêmes polluants, aux mêmes conditions de vie que nous. Ils partagent du coup tous les facteurs de risque. Du coup, ça fait un modèle qui est beaucoup plus proche de la réalité des cancers chez l'humain.
Mais est-ce que les cancers du chat se rapprochent aussi génétiquement de ceux de l'humain? Est-ce qu'on trouve les mêmes mutations dans les mêmes gènes entre nos deux espèces? C'est tout l'objectif de cette nouvelle étude parue dans Science, la première cartographie de l'oncogénome, donc du génome des cancers du chat. Et pour cela, il a fallu séquencer beaucoup de tumeurs félines sur différents continents. Lorsqu'un chat développe une tumeur, là où le chirurgien vétérinaire la retire, et prélève un petit bout, une biopsie, qui sera analysée pour confirmer le diagnostic. Et puis, cet échantillon part dans un frigo. Ce qu'ont fait les scientifiques pour mener à bien cette étude, c'est de contacter de nombreux centres vétérinaires à travers le monde, au Royaume-Uni, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Allemagne ou encore en Autriche, afin de récupérer ces tissus et d'en extraire de l'ADN. Résultat, près de 500 tumeurs ont été séquencées, de 13 types distincts, et ils confirment la proximité génétique entre les cancers des chats et les nôtres.
Globalement, les résultats ils montrent qu'on a quand même de nombreux mécanismes génétiques du cancer qui sont partagés entre les chats et les humains, même si on a certaines voies qui restent spécifiques à chaque espèce. Et notamment, on a identifié 31 gènes qui étaient dits « driver », donc « moteur du cancer ». Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le séquençage, pour comprendre les mécanismes à l'œuvre, en fait, on n'a pas séquencé tous les gènes du chat, mais on a séquencé les versions félines d'environ 1000 gènes qui étaient déjà connus pour être impliqués dans les cancers humains. Donc vraiment, l'angle d'attaque, c'était « Ok, on connaît ces gènes qui ont un rôle d'importance dans les cancers de l'homme. Est-ce qu'on retrouve la même chose chez le chat ?» Donc, on va regarder ces versions félines. Et certains sont vraiment très connus chez l'humain, comme on a TP53, c'est un gène qui est clé de protection contre le cancer, qui permet de réparer l'ADN. C'est un peu comme un gardien du génome. Et il est muté dans environ un tiers des tumeurs félines. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans l'article. Et c'est très proche des nombres qu'on retrouve chez l'humain.
Je vous épargne les noms un petit peu techniques des 31 gènes identifiés, mais ce que cela montre, c'est que les mécanismes biologiques du cancer sont bien partagés chez nos deux espèces. Et comme chez l'humain, on retrouve chez le chat certaines empreintes de l'origine de ces cancers, avec les UV pour les cancers de la peau ou des agents infectieux, par exemple le papillomavirus du chat. Ces résultats ne sont pas tout à fait surprenants, nous sommes des mammifères, notre espace de vie est commun, et c'est justement cette part environnementale qui est particulièrement intéressante. Ces travaux s'inscrivent dans la démarche appelée One Health, une seule santé. Nos deux santés sont ainsi liées et nos connaissances chez les chats nourrissent nos connaissances chez l'humain et inversement. L'étude approfondie de l'épidémiologie des chats pourrait nous renseigner sur les facteurs environnementaux de cancer chez nous et en retour, ces résultats pourraient améliorer la prise en charge des cancers chez les chats en s'appuyant sur des traitements déjà utilisés chez l'humain. C'est toute la promesse de la médecine de précision en oncologie vétérinaire.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond, CJ. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Le. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.